Bien, fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Nous allons parler dans cette deuxième partie de l'émission de l'impact de l'alimentation sur la scolarité. Nous avons déjà en ligne Jessica Ikete, logopède orthophoniste et présidente d'Orthokine, la belle Orthokine. Jessica Ikete, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous avons également en ligne Madame Swao Samba, nutritionniste spécialisée dans l'alimentation alcaline. Madame Swao, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Des questions et préoccupations, les standards est ouvert. Composez le 081 890 63 94 pour participer à cette émission. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la réalisation. Marcel Ngombo à la coordination. Au micro, c'est Jody Daniel Keshama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi lance ce vendredi 20 novembre à 9h, heure de Kinshasa, une nouvelle radio pour les enfants sur la fréquence 103.2 FM. Okapi Enfants, un projet de l'UNICEF en partenariat avec la MONUSCO pour être en contact permanent avec les enfants. Au menu, santé, environnement, éducation, protection de l'enfant et bien d'autres thèmes sur la vie quotidienne. Okapi Enfants, une radio pour les enfants avec les enfants et les parents sur la 103.2 FM. Okapi Enfants, un espace d'expression et d'épanouissement pour nos enfants.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Plusieurs parents envoient leurs enfants à l'école avec beaucoup de nourriture sucrée, des biscuits, bonbons, chocolat, jus et autres qu'ils glissent dans les cartables. Ou soit certains donnent carrément de l'argent aux enfants qui s'achètent des boissons sucrées, colorées et autres devant les écoles. Ou même au sein de certaines écoles, on vend toutes ces boissons-là. Par ailleurs, certains enfants dans d'autres coins du pays vont à l'école sans rien mettre sous la dent, faute des moyens. Ils vont à l'école affamés. Et pourtant, plusieurs études démontrent que l'alimentation influe sur les comportements des élèves à l'école, sur les cerveaux et sur leur scolarité dans l'ensemble. Alors, quel est l'impact de l'alimentation sur la scolarité? Comment fournir à nos enfants une bonne une alimentation saine afin de leur permettre de bien travailler à l'école. Nous allons parler de tout cela avec nos invités. On va accueillir d'abord Jessica Ikete, logopède, orthophoniste et présidente de l'ASBEL Orthokine. Jessica Ikete, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors pourquoi aujourd'hui cet intérêt pour l'alimentation des élèves surtout?
Oui, donc comme vous le savez, on accueille au centre d'Orthokine des enfants qui présentent des troubles du langage et des apprentissages. Maintenant, lorsqu'on dresse donc, ce qui s'appelle l'anamnèse, donc il y a un peu l'histoire du patient, etc., on se rend compte que certains enfants n'ont pas toujours l'alimentation adéquate, on va dire. Voilà. Et donc lorsque moi, j'étais encore en Europe, je travaillais de toute façon d'office avec des nutritionnistes, etc. Donc par rapport aux enfants que j'avais en difficulté, dans les examens complémentaires qu'on demandait, c'était des examens par rapport aux intolérances alimentaires, etc. Parce qu'on sait que l'alimentation a un impact sur le cerveau, voilà, donc sur le fonctionnement de l'enfant. Et il se trouve que quand je suis arrivée ici à Kinshasa, j'ai été très saisie et très surprise en fait de voir un peu le contenu des le contenu en fait des collations des enfants, comme vous l'avez dit, boissons sucrées, très orangées, enfin énormément de sucre en fait. Voilà, et donc voilà pourquoi l'intérêt, et parce que vous savez que la vocation d'Orthokine, c'est vraiment de travailler en équipe pluridisciplinaire, et voilà, et notamment avec des gens qui sont formés dans l'alimentation. On a notamment une infirmière en pédiatrie, Daisy, voilà, qui s'occupe de ces enfants.
Donc on peut, s'il faut faire un état des lieux, on peut dire que les enfants vont souvent mangent mal, ils vont souvent à l'école et prennent trop de sucreries.
Oui, ils prennent beaucoup trop de sucreries. Et alors, étonnamment, il y a même des enfants qui ne partent même pas avec une bouteille d'eau à l'école. Alors que l'eau, c'est vraiment très important, en fait, notamment pour être bien concentré, etc. C'est important d'être bien hydraté, mais il y a beaucoup d'enfants, notamment dans le réseau des écoles, en tout cas avec lesquelles je collabore, il y a des enfants qui ne partent pas avec de l'eau à l'école. Après, il y a des écoles plus vigilantes où on interdit les boissons sucrées. Il y a des écoles qui font aussi de la sensibilisation. Voilà, mais il y a quand même beaucoup d'enfants qui ne partent pas avec de l'eau à l'école.
Alors, rencontrez-vous des enfants qui mangent mal à l'école, dans votre centre, Jessica?
Oui, on a des enfants qui sélectionnent même, qui font un peu de l'hypersélectivité, en fait, hein, qui sélectionnent vraiment ce qu'ils veulent manger. Après, ça, on rencontre ça de toute façon chez des enfants qui ont des troubles comme l'autisme ou d'autres troubles. Donc ça, c'est plutôt de l'hypersélection alimentaire. Mais après, on a des enfants qui ont d'autres types de difficultés, qui ne mangent pas spécialement bien, en fait. Comme je le disais, beaucoup de collations sucrées, beaucoup de jus. Les jus ici, au final, c'est plutôt des sodas. Voilà, et donc ils mangent pas assez de fruits, ils mangent pas assez de légumes. Voilà, c'est beaucoup de céréales. Et de choses grasses même parfois. Voilà.
On va accueillir Madame Soao Samba. Elle est nutritionniste. Madame Soao, dites-nous quel est l'impact de l'alimentation sur la scolarité.
Bonjour. Donc en fait moi, étant nutritionniste et surtout que moi je suis spécialisée dans tout ce qui est alcaline. Je vais un peu expliquer l'alimentation alcaline, qu'est-ce que c'est. L'alimentation alcaline, en fait, c'est différencier l'aspect acidique, donc l'aspect acidique des aliments. Donc, c'est en fait, on valorise en fait les aliments qui ont un pH plus élevé de 0 à 7. Et donc, les aliments qui ont été cristallisés par le soleil, qui ont une alimentation plus légère, donc on inclut moins. Parce qu'en fait, ici, sur l'Afrique, avec notre cuisson, en fait, on a trop l'habitude aussi de cuire, en fait, les aliments pendant des fois 2 heures, 3 heures. Et donc,
oui, Madame Soao, on vous entend pas très, très bien. La ligne n'est pas très, très claire. Je sais pas si vous êtes dans une pièce, hein, ou s'il y a moyen peut-être de sortir pour que la communication soit beaucoup plus claire.
Ok, un instant.
Voilà.
Merci, vous m'entendez.
Nous parlons de l'impact de l'alimentation sur la scolarité avec Jessica Ikete, logopède orthophoniste, présidente d'Orthokin, et nous avons également Soao Samba, nutritionniste spécialisée dans l'alimentation alcaline. Et là, elle est en train de nous expliquer ce que c'est l'alimentation alcaline. Pouvez-vous nous dire un peu plus par rapport à ce type d'alimentation?
J'espère que vous m'entendez un peu mieux maintenant.
Oui, un peu mieux, ça va, allez-y.
Ok, super. Donc en fait, ce que j'ai expliqué, c'est que l'alimentation alcaline, c'est une alimentation qui met en avant les fruits, les légumes, de regarder en fait le pH des aliments. Donc quand on dit le pH, c'est plutôt, comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'aliments qui ont été industrialisés, donc créés dans l'industrie moins naturelle. Donc c'est en fait mettre en avant tout ce qui est 100% biologique, tout ce qui est 100% naturel, et d'enlever en fait de l'alimentation les produits qui ont été plutôt transformés en paquets et qui causent beaucoup d'allergies, de problèmes, surtout chez les enfants à bas âge, tout ce qui est les produits de lactose, le lait, surtout ce qu'il y a ici au Congo, en revenant en fait au Congo, ce que j'en ai fait, c'est que les enfants boivent beaucoup de lait, le nido, tout ce qui est en fait de lait en poudre, et du coup ça crée beaucoup de problèmes de diabète très à bas âge chez les enfants, aussi des problèmes de tension, et aussi ce qui fait que inconsciemment les enfants sont déconcentrés parce qu'un enfant a besoin de sucre, mais pas de sucre aussi artificiel. Donc c'est mieux que ce que je pensais, c'est de mieux donner aux enfants le matin des bananes, des fruits, que de donner en fait une tasse de lait ou de l'eau avec du pain. Parce que, en fait, quand vous regardez le pain, là, le pain qu'on mange du pain Victoire, qui sont, en fait, du blé, mais du blé vraiment de basse qualité, qui fait qu'en fait, quand vous mangez ça, 2-3 heures après, vous avez faim. Et donc, c'est mieux que quand vous mangez des fruits, des bananes, avec une grosse quantité. Et même à l'idée qu'un plat, un repas complet, hein, donc même un pondu avec du riz, pour qu'il soit bien plein. que de le faire manger des choses remplies de sucre, etc.
Voilà, Jessica nous a dit tout à l'heure que beaucoup d'enfants mangent mal, c'est la malbouffe, ils vont à l'école avec, ils prennent trop des sucreries, des biscuits et autres, ils n'ont même pas des bouteilles d'eau, les parents ne pensent même pas à envoyer les enfants avec de l'eau ou quelques fruits à l'école.
Et je vous remercie vraiment pour votre remarque, parce que vraiment l'eau, c'est la base. Je pense qu'on oublie vraiment que 75% de notre corps humain est fait d'eau. Donc quand on a une carence d'eau, en fait, ça crée qu'on soit des fois des frustrations, des problèmes de concentration. Des fois, on va dire, oh, cet enfant, il est agité, il n'arrive pas à se concentrer. Mais est-ce qu'il a bu de l'eau aujourd'hui? Est-ce que son taux de d'hydratation est assez élevé? On est en Afrique, il fait chaud. Donc on a besoin d'avoir quand même au moins un litre et demi d'eau dans le corps. Donc, de retirer toutes ces sucreries qui sont purement toxiques, hein, comme elle disait qu'elle expliquait tout à l'heure, il n'y a rien, il n'y a aucun fruit là-dedans dans ces sodas. C'est purement de l'eau avec du sucre et des produits chimiques qui sont mélangés et du colorant. Et donc, au lieu d'ajouter des bienfaits, parce que quand on mange, le but de s'alimenter, c'est de rajouter des nutriments pour se renforcer l'énergie vitale qu'on a déjà dans son corps, pour pouvoir continuer la journée. Le but n'est pas de rajouter des produits toxiques pour se freiner, se rendre malade, etc. Donc je conseille vraiment aux parents de réfléchir à donner beaucoup de fruits, beaucoup, beaucoup d'eau aux enfants. Mmh. Voilà.
Bien. Jessica Ikete, quel est l'impact de l'alimentation? La façon de manger, des enfants de manger aura quel effet sur les cerveaux ou sur leur façon de travailler à l'école?
Ben, je dirais que les enfants qui consomment beaucoup de sucre, la tendance, c'est qu'ils sont très agités, en fait. Le sucre, ça peut agir un peu, on va dire, comme une drogue, hein, évidemment, entre guillemets, en fait. Voilà, donc un enfant qui va consommer vraiment énormément de sucre, quand il n'a pas sa dose de sucre, en gros, il n'est pas bien. Donc, en gros, on trouve des enfants beaucoup plus agités ou des enfants qui ont des coups de pompe, en fait, des fatigues durant la période scolaire, mais pas spécialement au bon moment. Et à cela, en plus, s'ajoutent nos difficultés, en tout cas ici à Kinshasa, avec les embouteillages, etc. Il y a des enfants qui se lèvent en plus très tôt. Et donc, voilà. Et donc, du coup, aussi, le fait de se lever très tôt, il y a des enfants qui déjeunent pas forcément à la maison avant de venir parce qu'ils n'ont pas faim. Mmh. Et donc, tout ça impacte. Donc, la façon de s'alimenter, donc les aliments qu'on avale, mais aussi le moment où on s'alimente, tout ça a un impact. Et donc, je dirais beaucoup plus agité. Pour certains, des coups de pompe et de la fatigue à un moment où il faut pas. Et donc, voilà, grande fatigabilité, perturbation du sommeil. Voilà, c'est souvent la même chose, en fait. Voilà. Et alors, donc, comme le disait Swao, en fait, on a toutes les maladies qui peuvent être liées à la malbouffe. Donc, diabète, etc. Voilà, tout ça, ça va pas aider non plus au niveau des apprentissages quand il y a des maladies associées aux troubles du langage, des apprentissages. Voilà, et donc je dirais même qu'il y a des enfants qu'on va peut-être cataloguer d'hyperactifs et qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des hyperactifs, c'est toutes les habitudes alimentaires et autres qui font que l'enfant est plus agité.
Voilà, et pendant la récréation, qu'est-ce qu'ils mangent généralement? C'est toujours les mêmes choses?
Alors moi, ce que je constate, c'est donc en fonction des écoles, parce que je vous dis, il y a des écoles qui ont fait de la sensibilisation, où c'est peut-être un peu plus simple, il y a des écoles qui ont commencé la sensibilisation, mais en gros, quand ce qu'on peut trouver, mais c'est pas la généralité, c'est les yaourts à boire, les sodas, donc très orangés souvent. Mmh.
Oui.
Voilà, les sodas, les chips, pop-corn, voilà, c'est un peu tout ça qu'on trouve, les biscuits en sachet, on trouve des tas de biscuits, en plus qui coûtent cher, en fait, aussi, finalement. Voilà. Après, il y a des écoles qui ont sensibilisé, qui demandent aux enfants d'apporter une gourde. Du coup, dans la gourde, il y a de l'eau. Donc, on évite, ils sensibilisent, en fait, aussi à tout ce qui est protection de l'environnement, ça va de pair. Donc, amener une gourde, amener plutôt une boîte. Comme ça, dans la boîte, on met des choses cuites à la maison, en fait, qui ont été cuisinées à la maison. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, on évite tout ce qui est produit industriel. Voilà. Donc, déjà, le fait de faire ça, ça change un peu les habitudes.
Voilà, ça change un peu les habitudes parce que les enfants prennent presque la même chose pendant toute l'année scolaire.
Oui, c'est ça. Il y a des enfants qui mangent la même chose pendant toute l'année scolaire. Et puis, bon, il y a des enfants qui aiment énormément voilà, tout ce qui est très sucré, très gras. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Mmh. Bien, nous allons faire un tour à Kananga, où notre confrère Blaise Ndongala a interrogé certains habitants de la ville par rapport à l'impact de l'alimentation sur la scolarité. Écoutez.
Vous savez, l'enfant qui ne mange pas assez bien, d'abord psychologiquement, il n'est pas à l'aise. Deuxièmement, si l'enfant tombe toujours malade, c'est qu'il est toujours à l'hôpital ou à la maison. Absent à l'école, il rate des leçons, ça fait un freinage, même pour sa scolarité, même psychologiquement ici, il sera un peu en déséquilibre par rapport à son alimentation. Donc si l'enfant est bien nourri, ça l'aide aussi à bien étudier.
Lorsqu'un enfant mange très bien, il a une bonne santé. Même à l'école, il sera très intelligent, il ne tombera pas malade. Même si la maladie vient, ça ne va pas lui affaiblir davantage. Oui, si un enfant ne mange pas bien, vous verrez dans la classe là, il peut tomber malade. Si un enfant a faim, il ne va pas bien étudier. Même s'il est intelligent, il peut avoir une bonne réponse, mais au fur et à mesure qu'il est faible là, il n'a pas la force de parler, il va toujours échouer.
Une bonne alimentation a l'impact car ça contribue à la santé. Si un enfant n'a pas une bonne santé, n'est pas vraiment à mesure de bien étudier. Il y a des nourritures qui contribuent aussi à l'intelligence de l'enfant. Par exemple, les poissons. Si l'enfant mange un repas équilibré, ça contribue aussi à sa santé. Il y a aussi les feuilles de manioc, les aubergines, les tomates, tout ça, ça contribue au développement. Bon, nous conseillons aux parents de bien protéger les enfants du côté nourriture, puisque bien manger, cela ne veut pas dire qu'il faut seulement acheter la nourriture qui coûte cher. Il faut seulement penser aux trois groupes d'aliments. L'aliment qui contribue à la croissance, l'aliment qui contribue aussi au développement intellectuel et l'aliment qui contribue aussi au développement du corps humain.
Si quelqu'un qui n'a pas bien mangé, il peut arriver en classe et il dort, il ne peut pas bien évoluer. S'il a bien mangé, il peut rester calme et il se donne très bien. Donc, il faut que chaque jour, l'enfant prenne des aliments complets. Par exemple, les aliments d'énergie, les aliments de construction et les aliments de protection.
Une bonne alimentation a des impacts sur la vie de l'enfant. Puisque nous avons trois groupes d'aliments, nous avons les aliments d'énergie. Ce sont les aliments qui donnent la force à l'enfant, comme le maïs, là on peut parler de la nourriture, le foufou. Quand on mélange la farine de maïs, la farine de manioc, ça donne l'énergie. Et il y a aussi du riz, c'est aussi un aliment qui donne la force, c'est un aliment d'énergie, ça donne l'énergie à l'enfant. Nous avons aussi le deuxième groupe, c'est un aliment constructif. Vous voyez, quand on parle de la construction, on voit la corpulence de l'enfant, c'est-à-dire les aliments qui construisent le corps de l'enfant pour qu'il puisse bien grandir. Si nous avons un troisième groupe, ce sont les aliments de protection. Ce sont les aliments qui protègent contre les maladies. Nous avons par exemple les légumes, nous avons aussi les fruits. Ce sont là les aliments de protection, c'est-à-dire qui protègent contre les maladies, même pour les grandes personnes. Maintenant, quand l'enfant mange, il faut associer tous ces trois groupes d'aliments, pour qu'il y ait complémentarité. Quand l'enfant a l'énergie, il doit aussi grandir. Et nécessairement, il doit être protégé contre les maladies, pour qu'il puisse bien étudier. Puisque si l'enfant est maladif, même s'il est intelligent, vraiment, il ne peut pas réussir.
Bien, merci Blaise Ndongala de Kananga pour ces réactions de quelques habitants de Kananga. Alors, Madame Swao, votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit?
Ce qui vient d'être dit en Kananga ou la réponse que ce que Jessica a dit, s'il vous plaît.
Oui, Madame Swao, vous avez suivi les réactions des habitants de Kananga par rapport à l'alimentation des enfants. Ils ont beaucoup plus insisté sur les trois groupes d'aliments, les aliments qui apportent de l'énergie, la protection et des aliments de construction.
Je suis tout à fait d'accord et en même temps, j'ai vraiment aimé l'intervention quand le monsieur y a spécifié que ce n'est pas très important de bien manger, ne veut pas dire manger cher. Parce que ce que je remarque aussi beaucoup, c'est que les gens sont très intéressés, sont très influents dans le sens où ils veulent manger comme on mange en Occident, comme on mange. Donc, c'est bien de vouloir changer, varier son alimentation. Il ne faut pas oublier qu'on vit au Congo et déjà notre alimentation congolaise, elle est tellement variée et elle n'est pas très connue. On a des légumes comme le muscili, le maïbo, le champignon, le millet, le millet, c'est un blé qui est plus riche, qui est plus nourrissant que le riz, mais qui n'est pas du tout qui est vraiment négligée, que par exemple en Occident est vendue très cher et très bien mis en avant, mais celui qui est collé consomme du riz blanc. Tandis qu'on a quand même aussi, par exemple, dans la communauté niçoise, on a des agriculteurs qui font du riz rouge, qui est quand même assez plus nutritif, qui a plus de potassium, plus de calcium et de magnésium. Donc moi, ce que je veux vraiment tirer l'attention aux gens, c'est de vraiment faire une recherche, de s'éduquer sur l'alimentation. Parce que tout vient du foyer. Donc les parents doivent être conscients qu'ils doivent faire un effort de vraiment éduquer les enfants sur ce qu'ils ont besoin réellement pour être en bonne santé. Parce que la santé, c'est pas manger des légumes qui viennent en boîte, manger des légumes qui sont en boîte avec des produits conservés, tandis que on vous a dit même pas à 5 minutes de votre porte, vous avez la maman qui vous vend les mêmes légumes frais. Donc, je pense qu'on doit se réfléchir sur la manière qu'on réfléchit autour du bio, sur qu'est-ce qui est vraiment la nourriture, qu'est-ce qui n'est pas une nourriture. Parce qu'on le dit, n'est pas se réveiller un jour et puis qu'on a une alimentation, non naturelle, puis il n'y a plus d'alimentation naturelle. Donc vraiment, ça, la conscience que moi, je voudrais vraiment dire, c'est que tout commence au foyer. Donc les enfants, ils prennent l'exemple que nous, on les donne. Donc nous, comme parents, comme adultes, on a commencé à faire l'effort de donner les bons exemples aux enfants.
Bien, quel est l'impact de l'alimentation sur la scolarité? On va accueillir un auditeur, héritier depuis Bounia. Bonjour.
Bonjour, Maître Jody.
On vous écoute. Bienvenue, héritier. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'alimentation des enfants?
Pourquoi changer les enfants lorsqu'ils partent à l'école? Est-ce que cela n'est pas causé?
La question.
Une mauvaise éducation chez les enfants. Vous allez voir, lorsque vous entrez à une école, vous constatez qu'il y a d'autres enfants qui sont en train de manger, ils suivent des chocolats de n'importe quoi. Alors pourquoi changer les enfants lorsqu'ils vont à l'école? Je ne pas ignorer qu'il y a d'autres enfants qui ne peuvent pas manger. Là, lorsqu'ils vont voir d'autres enfants venir avec n'importe quoi, ils seront stressés à l'école et cela va causer un trouble dans la salle de classe. Alors pourquoi est-ce que changer les enfants lorsqu'ils vont à l'école avec la nourriture, avec de n'importe quoi? Et vous allez voir même que lorsque l'enfant part à l'école avec la nourriture, parfois cette nourriture peut se renverser dans les cahiers, cela
peut abîmer les cahiers.
Et cela, ce n'est pas normal, monsieur le journaliste.
Alors, qu'est-ce que vous proposez? Que les enfants n'amènent pas la nourriture à l'école en provenance de la maison? Qu'est-ce qu'il faut faire alors?
Cela n'est pas normal lorsqu'on va envoyer l'enfant à l'école avec la nourriture. Parce que les enfants qui étudient dans la même salle n'ont pas de même uniforme. Pour que vous envoyez les enfants à l'école avec la nourriture? Tous les enfants à l'école qui sont dans la classe n'ont pas les moyens de trouver la nourriture. Alors, il faudra garder cette nourriture à la maison. À la rentrée, l'enfant puisse manger la nourriture que vous devez lui faire transporter en allant à l'école, monsieur le journaliste.
Bien, merci héritier. Jessica Ikete.
Je comprends en partie la question de ce monsieur. Donc, tout le monde n'a pas l'argent pour acheter la nourriture. Voilà. Donc, du coup, ce que j'entends, c'est moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est plutôt que chaque enfant devrait être sur une position égalitaire, on va dire. Après, il faut savoir qu'il y a des projets mis en place. Notamment, nous, on a une dame qui s'appelle Ortie, qui gère un peu le Festival du Jardin, et avec l'appui du Fonds Forestier, donc on va collaborer sur un projet qui s'appelle 1 million d'arbres en milieu scolaire. Voilà, et donc du coup, je pense qu'il y a quand même des réponses qui tentent d'être apportées. Voilà, et à partir de ce genre de projet, voilà, 1 million d'arbres en milieu scolaire, voilà, à partir de là, on peut émerger vers des choses où peut-être ça permettrait aux écoles, au final, d'être autonomes.
Voilà, ou peut-être qu'il faudrait qu'il y ait dans chaque école une cantine scolaire.
Oui, mais pour qu'il puisse y avoir une cantine scolaire, fatalement, il faut des projets mis en place pour que cette cantine scolaire puisse en fait fonctionner seule, en fait, de façon autonome. Il faudrait que ce soit des projets d'école avec des parents et puis voilà, et donc ça voilà, et donc du coup être plus dans des projets d'éducation environnementale où on vient inclure du coup cette partie alimentation. Voilà, je pense que des cantines scolaires basiques
avec ce qu'il faudrait donc comme collation pour les enfants serait intéressant. Et puis faut pas oublier quand même qu'on est quand même sur une terre qui est quelque part bénie. Tout peut pousser en fait ici en RDC. Donc voilà, je pense qu'il y aurait des solutions comme ça à apporter et qu'il y a beaucoup de gens dans le domaine du privé, donc beaucoup de gens, beaucoup d'associations qui sont prêts à collaborer sur ce genre de projet. Donc voilà, mais dire que les enfants ne doivent pas manger lorsqu'ils sont à l'école, on peut pas vous dire que oui, parce que c'est faux. Voilà, il y a bien un cycle à respecter. Voilà, donc ça fait partie, c'est un cycle humain, il y a bien un cycle à respecter. Et oui, les enfants doivent manger et doivent être bien hydratés pour bien apprendre et être bien concentrés à l'école.
Bien, et puis il a dit que laisser les enfants venir avec la nourriture à l'école, c'est un peu délicat parce que la sauce peut se renverser sur les cahiers et abîmer les cahiers.
Bon, le truc, c'est que fatalement, s'ils ont les cahiers à côté et qu'il n'y a pas un espace où ils peuvent manger, c'est très embêtant.
Oui.
Maintenant, voilà, ça c'est clair, c'est très embêtant. Mais après, voilà, je ne sais pas, donc tous les enfants ne vont pas à l'école de 7h30 du matin à 15h. Donc du coup, l'école devrait être le lieu où c'est plutôt certaines collations, le petit déjeuner, enfin, voilà en fait, en somme.
Donc, bien. Nous rappelons aux auditeurs, pour participer à cette émission au Capi Service, appelez au 081 890 6394 et notre numéro c'est le 099 70 66 394. Appelez au 099 70 66 394 pour participer en direct à cette émission au Capi Service. Alors je reviens à vous, Madame Soao Samba. Donc on peut retenir que l'alimentation a un impact considérable sur la scolarité. Et si un enfant, on peut dire aussi que la malbouffe peut être à la base l'une des causes des échecs scolaires.
Exactement. Je veux dire, l'alimentation est dans la base de la vie d'un être humain en soi. Et donc, surtout un enfant qui est en pleine croissance, qui est en plein développement de ses organes, de son cerveau, de la manière qu'il va la vie, de tout son être, a besoin d'avoir des aliments les plus riches, les plus naturels, les plus sains pour le permettre de grandir et de développer de la meilleure façon que possible. Donc, c'est pour ça que je répète encore que c'est vraiment pour moi la chose qu'on devrait tous vraiment, vraiment mettre un appui dessus, c'est de créer des formations ou des ateliers, que ce soit dans les écoles, pour vraiment expliquer aux parents, conseiller les parents à quels sont les plats, parce que peut-être aussi c'est ne pas avoir les variétés de plats, pas savoir ce qu'on peut se donner comme alternative aux enfants. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de lait, du nido. Mais maintenant, on peut me dire, oui, mais ok, mais comment, quel autre lait que je peux donner à mes enfants? Là, maintenant, l'exemple que je peux dire, il y a le lait à l'arachide. L'arachide, ça coûte 100 francs. Vous pouvez prendre 5 boules d'arachide qui font 500 francs et vous pouvez faire du lait naturel, végétal avec ça. Donc, c'est plein de petits astuces comme ça qu'on peut pouvoir donner aux parents pour permettre qu'ils changent et qu'ils alternent l'alimentation de leurs enfants.
Et qu'est-ce que vous dites par rapport à l'idée de créer dans chaque école une cantine scolaire?
Ah mais non, mais ça ce serait magnifique. J'ai grandi en Europe, j'ai eu l'opportunité de pouvoir étudier en Europe, et donc dans les écoles là, il y avait des cantines vraiment dans les écoles, et je pense que ayant maintenant aussi eu l'opportunité de travailler ici dans l'éducation et de voir la différence, je vois vraiment qu'avoir une cantine dans l'école, ça non seulement ça fait que les enfants vont manger sainement, mais ça mène aussi une certaine cohésion, une certaine esprit de groupe, parce que ils peuvent avoir un système de nettoyage, de dire que bon, que chaque classe, chaque équipe doit nettoyer tel jour, tel jour, tel jour. On peut apporter aussi des notions de propreté, on peut apporter des cours de cuisine, donc ça peut ouvrir toute une autre gamme de variété d'activités et de moyens d'éduquer les enfants. Donc moi, je trouve ça vraiment quelque chose qu'on devrait vraiment appuyer et soutenir et réfléchir comment mettre ça en place, quoi.
Bien. Quel est l'impact de l'alimentation sur la scolarité? Nous allons à présent vous proposer un entretien que nous avons eu avec Ariane Albert. Elle est fondatrice de l'association Les Enfants de la Chance dans les îles de la Réunion, département français d'outre-mer. Elle nous parle, elle est beaucoup plus dans la nutrition, neuro-nutrition, voilà, neurosciences. Et elle va nous parler un peu de l'impact de l'alimentation sur la scolarité. Suivez. Ariane Albert, bonjour.
Bonjour et bonjour à vos éditeurs.
Pourquoi cet intérêt pour l'aliment et la nutrition?
Et tout d'abord, je voudrais mettre les choses dans leur contexte. Nous savons et nous le disons depuis toujours que ce que nous sommes, c'est aussi ce que nous avons dans le ventre. Les expressions ne manquent pas. Bon, nous avons l'estomac noué quand nous avons peur, nous avons la peur au ventre, nous faisons la bile quand tout, nous faisons pas de bile quand tout va bien. Nous ravalons notre colère, nous digérons les affronts qui nous sont faits, les échecs nous laissent un goût amer, et quand nous sommes venus, nous sommes pris au trip. Notre moi est donc l'alliance de notre tête et de notre ventre, et nous le savons, nous, le peuple, depuis toujours. Et c'est ce qu'aujourd'hui, les scientifiques sont en train de prouver. Alors, pourquoi cet intérêt? Parce que ces nouvelles recherches démontrent en neurosciences qu'il est évident que notre cerveau est influencé par nos intestins et il communique par le nerf vague. Alors, c'est quoi le nerf vague? On pourrait dire que c'est une ligne téléphonique qui relie l'intestin à la centrale cérébrale, ce qui permet de rendre compte rapidement des impressions. Le cerveau, qui est l'organe isolé et loin de tout, utilise les informations envoyées par l'intestin pour se faire une idée de ce qui se passe dans notre corps. Et en fait, l'intestin est au cœur de la bataille. Il connaît toutes les molécules de notre dernier repas, attrape avec curiosité des hormones qui se baladent dans notre sang, prend des nouvelles cellules immunitaires et prête une oreille attentive au bourdonnement des bactéries intestinales. En fait, l'intestin est donc aux premières loges pour pouvoir ensuite la dilater, comme on dit à La Réunion. En fait, c'est faire des commérages sur nous et pour informer le cerveau. Et de cette façon, le cerveau a connaissance de tout ce qui se passe grâce à l'intestin. On comprend dès lors, pour que ce système fonctionne bien, l'impact de l'alimentation et pour que tout ce système de communication puisse fonctionner correctement.
Légumes, fruits, comment encourager les enfants à les consommer, particulièrement nos enfants porteurs des handicaps?
Mais ayez l'imagination pour que ça soit agréable à la vue d'abord pour l'enfant. Il y a différentes formes de présenter des légumes et des fruits sous forme de plats qu'on peut faire avec l'enfant aussi pour l'encourager, pour le stimuler, pour lui donner envie de manger aussi bien avec les yeux qu'avec le goût. Ça, c'est hyper important. Et aux parents et aux professionnels, j'ai un conseil, enfin, trois conseils à vous donner. Éliminer le sucre d'emblée, le sucre raffiné. C'est le poison numéro un de notre cerveau et donc ceux de notre enfant. Il est dépourvu de vitamines, d'enzymes, d'oligo-éléments et il met en danger l'intégrité même de tout le système que je vous ai expliqué entre l'intestin et le cerveau, mais aussi de toute la structure osseuse, nerveuse, cardio-circulatoire, respiratoire et métabolique. Alors, c'est pas tout de dire on arrête le sucre. Attention au sucre caché qui se met dans les conserves, dans les charcuteries, dans tous les plats industriels et les boissons soda qui sont colorées, qui sont, il y a beaucoup trop de sucre, buvez de l'eau, et car ce sont de réels poisons. Je vous propose, c'est pas tout de vous dire, de plus le faire. Donc, il faut remplacer ce sucre raffiné par le sucre de canne complet qui s'appelle la rapadura, ou du miel biologique non chauffé. C'est important, non chauffé. Et alors, le top du top, on est en Afrique, le sucre de la fleur de coco, qui est sans effet, aucun effet secondaire et qui est valable même pour les personnes diabétiques.
Ariane Albert, fondatrice de l'association Les Enfants de la Chance dans les îles de La Réunion, merci.
À vous aussi, bonne journée à tout le monde, merci.
Au Capi Métissage, fais le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service. Nous parlons dans cette deuxième partie de l'émission de l'impact de l'alimentation sur la scolarité. Nous rappelons les numéros pour participer à cette émission. Composez le 099 70 66 394. 099 70 66 394. Nous allons accueillir Augustin de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour aux auditeurs de la radio.
Bienvenue dans cette émission, Augustin. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'alimentation des enfants à l'école?
Par rapport à l'alimentation, d'abord, je commence par dire que c'est un bon sujet qui cadre avec la psychologie de l'enfant. Vous savez, je dis, la nourriture, nous sommes là sur les facteurs de développement de l'intelligence. L'impact est à la fois positif et négatif. Et je commence d'abord par donner mon propre cas. J'ai grandi au village. Et au village, même ce qui se passe aujourd'hui, vous ne verrez pas les écoles. Les parents envoyaient leurs enfants avec la nourriture à l'école. Bon, qu'est-ce que papa faisait? Et nous allons là sans manger. Au retour, là, bon, on peut me trouver les mangues, tout ça, on peut se, pour manger. Et il nous fait dormir là pour que nous puissions pour reprendre. Le côté négatif dont je vais parler là-bas, c'est quoi? C'est que l'enfant, pour qu'il puisse aller à l'école, il va seulement dire qu'il n'y a que la nourriture. Et pour quelle sorte de nourriture? Parce que nous voyons ce que les parents font aujourd'hui quand ils envoient leurs enfants à l'école. Bon, ce n'est pas une nourriture qui est exigée. Je donne un exemple là. Quand nous avons été enfants à Katanda, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, on nous exigeait de manger plus les poissons frais, surtout les têtes, parce que on disait que dans la tête des poissons, il y avait là quelque chose là, dont je ne connais pas encore.
Qui donne de l'intelligence.
Oui.
Quelque chose qui donne de l'intelligence.
Bon, phosphore, bon, pas qui donne de l'intelligence, mais qui développe l'intelligence, les phosphores qui développe
l'intelligence. D'accord.
Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est quoi? Les parents envoient avec les enfants à l'école, avec du riz, avec les donc moi je vais seulement dire que l'impact de la nourriture
actuellement les parents envoient, je sais pas s'il y a des parents qui envoient les enfants à l'école avec du riz, généralement ils donnent de l'argent et au niveau des écoles il y a des commerçants qui exposent les boissons sucrées, du jus et autres, et les enfants achètent les beignets.
Bon, ils sont
et autres.
Là, ils sont seulement en train, bon, si les parents donnent de l'argent à leurs enfants, ils sont seulement en train de corrompre leurs mères. Pourquoi? Parce que nous savons que l'objectif premier d'abord, l'objectif premier, c'est que l'enfant puisse apprendre. Oui, ça encourage. Mais il faut seulement demander à ses parents qui donnent de l'argent, qui donnent la nourriture aux enfants là. Qu'est-ce qu'ils font après que les enfants là reviennent de l'école? Ils engagent les enfants seulement le matin quand ils leur donnent l'argent. Mais bon, au retour. Et si l'enfant n'a pas eu quelque chose de matin, pas dire, papa, aujourd'hui, je ne parle pas parce que je n'ai pas eu, je n'ai pas eu ça. Et aussi, vous savez, à l'école, l'enfant aussi doit être aussi cultivé à l'émulation. Bon, l'enfant qui n'a rien dans la salle, comme ici dans la ville, bon, il va seulement envier les autres, là, il va dire, non, moi, et bon, il sera complexé. En un mot, il sera complexé.
D'accord. Merci. Donc, merci, Augustin de Kinshasa. Madame Soao, votre réaction par rapport à ce que vient de dire Augustin?
Je ne suis pas 100% d'accord, parce qu'en même temps, je pense que c'est une question de mettre un système en place. Parce que quand vous dites qu'il y a les marchands qui viennent, qui vendent le riz dehors...
Bon, pas le riz, ils vendent beaucoup plus les beignets, les sucreries, chocolat et autres.
Voilà. Que tous ces gens, les marchands qui vendent, que ce soit dessus, les sodas, les beignets, le riz, etc. C'est tout un système qui est mis en place parce que si les écoles ne mettent pas d'autres, font pas un travail pour mettre d'autres choses en disponibilité, c'est pas à la faute aux parents qui donnent de l'argent, qui est tout à fait normal, que ce n'est pas question de corrompre, mais c'est question que l'enfant doit aller à l'école et que l'enfant doit manger. Et après, c'est pas la faute aux parents qui fait son devoir de donner le besoin à l'enfant pour que l'enfant puisse aller à l'école et en même temps manger. que, donc maintenant, je pense que c'est une question que les parents et les écoles qu'on a pour ensemble pour trouver la meilleure solution pour que les enfants puissent manger correctement à l'école et ne pas pointer les doigts sur... donc voilà.
D'accord. Madame Soao Samba, je rappelle que vous êtes nutritionniste spécialisée dans l'alimentation alcaline. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Bien. Madame Jessica, vous avez suivi d'abord l'entretien avec Ariane Albert. Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'elle a dit?
Je dois dire que... donc moi, évidemment, ma réaction est positive. Moi-même, lorsque j'étais en Europe, j'ai consulté en fait Madame Ariane Albert, donc pour ma fille comme pour moi, etc. Et donc c'est clair, il y a un lien entre le cerveau et l'intestin, ça c'est clair. Voilà, la flore intestinale, donc microbiote intestinale, c'est quelque chose qui a un impact sur le système immunitaire. Quand on n'a pas une bonne flore intestinale, on peut avoir plein de soucis, des maladies auto-immunes, tout ce qui est un peu allergies, etc. Et donc du coup, oui, moi je suis à 100% d'accord avec ce qu'Ariane a raconté. Et puis si vous lisez un peu certaines recherches qu'on peut trouver sur internet, ben on a établi des liens en tout cas entre l'autisme et la flore intestinale, les maladies comme la schizophrénie, le stress, l'anxiété, etc. Et donc, j'invite les gens, en tout cas, à faire leurs propres recherches sur Internet. Et vous verrez que l'alimentation a vraiment un impact sur le cerveau et donc la scolarité. Un impact sur le destin, le cerveau et donc la scolarité. Et donc, oui, c'est vrai que c'est très difficile de... Lorsqu'on veut changer son alimentation, c'est vrai que c'est très difficile d'enlever tout ce qui est sucre raffiné. Voilà, c'est vrai que c'est difficile parfois de trouver des alternatives, mais en tout cas, il y en a quoi. Il y en a bien.
Par exemple, actuellement, les sodas qui sont vendus au niveau des écoles, c'est trop sucré.
Oui, c'est à proscrire. Selon moi, c'est à proscrire, mais c'est pas évident non plus pour les écoles de proscrire totalement, en fait. Je pense qu'il y a, une démarche et un travail à faire pour aussi déshabituer les gens à leurs mauvaises habitudes. Je pense qu'il y a des écoles qui sont partantes pour mettre en place des choses, mais elles ont besoin d'être accompagnées. Et donc, du coup, ce sont carrément des projets d'établissement à mettre en place. Soao le disait, en fait, c'est mettre, amener les gens à collaborer sur ce projet, en fait. Voilà, c'est pas facile. C'est une grande sensibilisation à faire, de la prévention. Et donc, ça ne se fera pas du jour au lendemain, en fait. Voilà, parce que c'est très facile au final de dire aux parents enlevez ça des cartables de vos enfants, mais il faut aussi les accompagner pour qu'ils puissent trouver du coup d'autres alternatives. Donc ce sont vraiment des projets à mettre en place et des projets d'établissement à réfléchir ensemble. Donc parents, enseignants, tout le monde en fait, les enfants, et je vais même dire le système, voilà. Parce que l'école, elle est dans un pays, en fait, aussi. L'école est dans un département, une province, un pays, etc. Donc, ce sont des choses que nous devons penser ensemble. Voilà, avec les pros de santé aussi, voilà, un peu comme l'adage d'Ortokine, c'est les professionnels de la santé, de l'éducation, de la communication, de la culture. Je pense qu'on doit, tous travailler ensemble sur ce genre de projet.
Bien, nous allons accueillir Monsieur Anessi Maledi, technicien en pharmacie. Il est il vient de partir à peine arrivé. On va encore tenter de le rappeler. Je disais qu'il est technicien en pharmacie et il est membre de l'ONG Anamed, Action pour la médecine naturelle. On va tenter de le rappeler. Alors nous poursuivons cet entretien avec vous, Madame Jessica Ikete. On a suivi Ariane Albert, a dit qu'on doit éviter les sucres raffinés. Les enfants doivent boire beaucoup d'eau et puis bon voilà. Déjà ça, ils peuvent manger le fruit, pas comme dessert, mais ils peuvent manger un fruit à jeun. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout cela?
Oui, c'est vrai que c'est un peu les conseils que les nutritionnistes naturopathes nous donnent. Alors c'est pas facile. C'est clair que c'est pas facile. Mais en tout cas, même moi, je respecte pas tout, je vous dis la vérité, mais en tout cas, moi-même, j'ai vu un impact sur ma propre santé lorsque j'ai décidé d'écouter les conseils, en tout cas, des professionnels. Maintenant, on tombe souvent, voilà, dans de mauvaises habitudes. par facilité, par manque de temps. Voilà, on se dit par manque de temps, mais en tout cas, notre santé, c'est primordial. Parce que là, on parle de la santé des enfants, au final, à l'école, mais ça va bien plus loin, parce que ces enfants qui ne se nourrissent pas bien, au final, ils font partie de familles qui ne se nourrissent pas bien. Et en gros, quand on regarde bien, je pense que c'est une majorité de gens, en fait, qui ne se nourrissent pas bien. Et je vous ai cité un peu les impacts sur la santé, que ce soit les AVC. Voilà, vous savez que moi, en tant qu'orthophoniste, donc je ne travaille pas qu'avec des enfants, il y a aussi des adultes, etc. Donc voilà, que ce soit les gens qui font des AVC, tout ce qui est maladie cardiovasculaire est lié à une mauvaise alimentation.
Bien.
Voilà, donc, oui, le stress, l'anxiété, la dépression,
oui,
tout ça lié à une mauvaise alimentation. Et quand je parle de mauvaise alimentation, c'est aussi, j'inclus aussi dedans les aliments auxquels nous sommes intolérants. Parce que voilà, donc Swahou a cité le lait. Il y a une controverse par rapport au lait, mais voilà, il y a des gens qui sont vraiment intolérants. Et donc on cite, en tout cas, on dit qu'une grande majorité des Africains sont intolérants au lactose, mais il y a d'autres intolérances. Après, voilà, c'est pas à moi d'entrer dans ce débat parce que je ne suis pas professionnelle là-dedans, mais je vous invite en tout cas à faire des lectures sur le sujet.
Bien, on va accueillir M. Anessi Maledi, technicien en pharmacie. M. Anessi, bonjour.
Bonjour.
Bien, nous parlons de l'impact de l'alimentation sur la scolarité. La médecine traditionnelle, au monde, reconnaît que l'intestin n'est pas seulement une machine à digérer. On l'appelle le deuxième cerveau et c'est aussi le tout premier système immunitaire du corps. Comment bien les traiter? Comment l'aider à être en équilibre grâce à l'alimentation et la médecine naturelle?
Ok, c'est vrai que nous avons appris dans l'anatomie que tout était géré par le système nerveux central, mais la science actuellement prouve que les intestins jouent un rôle très important, surtout dans la contrôle de nos émotions, la vie affective et cognitive aussi. Alors pour la médecine naturelle, nous préconisons toujours avant toute chose l'alimentation, parce que tout part de l'alimentation. La première chose, la prévention de toutes choses, c'est l'alimentation, parce que je suis vu autant d'invités, ils ont parlé de stabilité. Pour l'apprentissage, les facteurs importants sont la concentration, par exemple. Il faut mémoriser. Et tout cela dépend des nutriments, peut-être, que le corps a besoin pour produire certains enzymes, produire certains neurorécepteurs et neurotransporteurs des influx nerveux, pour que les cerveaux soient en équilibre et fonctionnent normalement. Donc nous retournons d'abord à l'alimentation, et là nous parlons plus, parce que aussi j'ai suivi tout le monde là-dessus, on parle par exemple de vitamines, on parle d'une façon générale de l'alimentation, mais il y a une alimentation ciblée pour que notre cerveau soit performant, parce que la scolarité de nos enfants passe par la stabilité et un bon fonctionnement de nos capacités cognitives. Voilà ce que je peux dire d'emblée.
Alors, par rapport aux huiles essentielles, probiotiques, plantes, légumes, avez-vous des ouvrages ou écrits à conseiller pour les gens qui nous écoutent?
Ok, par rapport aux huiles essentielles, oui, nous avons par exemple chez nous, nous avons de livres médecine naturelle où tout est écrit là-bas, et nous avons des fascicules quelquefois. Bon, souvent nous utilisons ça dans nos séminaires. Nous avons des fascicules que nous continuons à rédiger à l'intention, parce que le grand problème, c'est une bonne information alimentaire. Il y en a qui parlent, tout ça on trouve sur place, des solutions de remplacement par rapport au coca, par rapport à l'énergie. Il y en a, la vitamine C joue un rôle important pour les cerveaux, mais la vitamine C, c'est ce qu'il y a dérisoire. On a de mangue par-ci par-là, à l'intérieur, on jette même les mangues, les oranges, on l'utilise comme ballon de football, mais ce n'est pas une bonne information qu'il faudra à la population.
Bien, Jessica, revenons sur les légumes, fruits, comment encourager nos enfants à les consommer, particulièrement les enfants porteurs des handicaps?
Ariane vous a parlé d'imagination. Voilà, et de faire avec les enfants. Alors, quand elle parlait d'imagination, donc justement, on a un groupe Orthokin qui s'appelle Orthokin Alimentation, un groupe sur Facebook de nouveau. En fait, voilà, on peut rendre attrayant, en fait, ce qu'on peut donner à manger aux enfants. c'est-à-dire quasiment faire comme des petites... voilà, ça peut ressembler à une peinture quand on voit l'assiette, mais en gros, c'est faire des petits personnages amusants, etc., donner des noms rigolos aux plats qui seraient cuisinés avec les enfants. La présentation est hyper importante, en fait. Mmh. Voilà, voilà. Et donc, nous, notamment, en logopédie orthophonie, voilà, où certains kinés et tout travaillent avec des enfants qui ont des troubles de l'oralité alimentaire. Et ce côté attrayant est hyper important pour l'enfant, en fait. Donc, voilà. Et Internet, Pinterest.com, par exemple, regorge de plein d'idées, en fait. Voilà. De plein d'idées de petits ateliers cuisine à faire avec les enfants. Faire avec eux, mais aussi rendre attrayant la présentation, en tout cas. Voilà, il faut que l'enfant ait envie de manger, que ce soit coloré, joli à voir, rigolo, amusant pour lui, en fait.
Oui.
Voilà.
Bien, monsieur Malédi, organisez-vous, est-ce que vous organisez des rencontres des parents, des nounous autour de ces thématiques de l'alimentation, des solutions naturelles pour booster l'immunité et favoriser un bon fonctionnement cérébral?
Si nous organisons des séminaires, mais c'est très souvent maintenant à l'échelle locale. Donc, on n'a pas encore organisé de grands forums, mais c'est un sujet tellement délicat et nous pensons que nous devons maintenant s'y atteler parce que c'est tellement important l'alimentation et les cerveaux de l'enfant. Et nous avons beaucoup de problèmes d'instabilité, d'incontinence parce que plusieurs vitamines, par exemple des groupes B, sont très importants pour le fonctionnement et le développement de notre cerveau. Alors, pour cela, nous pensons que dans l'avenir, nous serons organisés des grands forums là-dessus.
Merci, monsieur Anessi Malédi. Je rappelle que vous êtes technicien en pharmacie. Vous êtes membre de l'ONG Anamed, Action pour la médecine naturelle. Merci d'avoir participé à cette émission. Bonne journée. On va conclure avec Jessica Ikete, présidente d'Orthokin. Alors, Jessica, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce thème, l'impact de l'alimentation sur la scolarité? Pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui nous écoutent en ce moment?
Moi, je voudrais vraiment, en tout cas, recentrer les choses sur ce que a dit Ariane, que le sucre est vraiment un poison, en fait, en gros, pour les enfants, que c'est important de bien manger, de rendre attrayant ce qu'on peut donner à manger aux enfants. Elle a parlé de sucre, de fleurs de coco. Je veux rebondir aussi sur ce qu'a dit Monsieur Malédi, parce que, voilà, Monsieur Malédi, au final, il part de l'aliment, de tout ce qu'on peut trouver, des plantes, des épices, etc. Donc, pour soigner, en fait, aussi.
En quelques secondes, on est déjà arrivé à la fin.
OK. Alors, du coup, je vais très, très vite. En fait, voilà, dites-vous qu'il y a plein de solutions et des gens qui proposent plein de choses, voilà, et qui ont un versant éducation là-dessus. Et allez vers eux, regardez tout ce qui existe sur les réseaux sociaux. Et voilà.
Bien, merci Jessica Ikete, logopède, orthophoniste et présidente de l'ASBL Orthokin. Merci d'avoir... Bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.